Fréquence Mistral.
Salut à toutes et tous, auditeurs et auditrices de Fréquence Mistral. On a la chance ici à Marseille de voir tous ceux qui font vivre la culture marseillaise, tous ceux qui font vivre la musique à Marseille. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un groupe que j'ai déjà reçu en la personne de Catchy Peril. Catchy Peril, c'est un groupe qui a fait un EP qui a été salué par la critique. Cet EP, c'était Disco Sucks et on les avait reçus à cette occasion. C'est un groupe qui mélange beaucoup de genres puisque c'est du glam, du rock, du punk, du post-punk, du psychédélique, du new wave. Et aujourd'hui, ils viennent me présenter leur nouvel album qui se nomme Catchy. Et je reçois donc Ben qui est guitariste, chanteur du groupe, mais avant tout leader suprême et qui représente Catchy Peril aujourd'hui dans nos studios. Salut Ben, ça va?
Salut, ouais, ça va et toi?
Ça va, c'est un plaisir de te recevoir.
Merci pour l'invitation.
De te re-recevoir. Ben, depuis qu'on s'est rencontrés pour cette EP donc, qui s'appelait Disco Sucks, ça a été beaucoup de concerts, ça a été une tournée un peu partout, vous avez joué dans toute la France. Et aujourd'hui, vous revenez avec ce nouvel album. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter dans mon petit casque avant cette interview. Est-ce que tu pourrais présenter Catchy pour celles et ceux qui ne le connaissent pas? Et peut-être même le groupe Catchy Peril.
Oui, alors Catchy Peril, c'est un groupe de 4 personnes. Avec synthé, basse, batterie, guitare, qui a commencé finalement début 2024, puisque notre premier concert s'était fait au nouvel an 2023-2024 ensemble. Et voilà, donc depuis le début, ouais, on a fait pas mal de concerts et on a envie de jouer de plus en plus et de plus en plus loin pour partir à la rencontre du public.
Ouais, bah depuis, moi j'ai vu sur c'était plus de 70 concerts, donc c'est quand même un bon rythme pour un groupe de rock, et surtout un groupe de rock marseillais. Moi je trouve ça assez fou parce que je l'ai découvert en travaillant dans cette radio, mais à Marseille on a une scène rock qui est très vivante, vous n'êtes pas les seuls, et j'ai l'impression même que c'est un écosystème rock qui est en train de se créer depuis plusieurs années.
Oui, carrément. Disons que il y a des activistes qui tiennent des lieux ou des organes de concerts qui aident à ce que la scène elle pullule de plus en plus. À Marseille, il n'y a pas besoin d'un énorme capital en fait de base pour se mettre à jouer, parce qu'on trouve un ampli, on trouve une guitare, une batterie, comme ça on peut y aller. En fait, il y a pas mal de lieux où on peut aller jouer quand on commence un groupe. Donc c'est ce qui fait qu'à mon avis ça augmente l'émulation là, qu'il y a en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a du rock depuis quand même assez longtemps, hein. Avant il y a eu Quartier Nord, Leda Atomica dans les années, si je dis pas de bêtises, 70, 80, 90, et en fait dans les archives depuis les années déjà 50, depuis l'arrivée en gros du rock en France, il y a du rock à Marseille.
Mmh.
Voilà.
Et alors comment vous vous êtes rencontrés? Parce que tu es aujourd'hui présent en tant que leader suprême pour représenter le groupe, mais est-ce que tu peux me dire ce groupe, comment vous êtes rencontrés, comment vous avez connecté, comment Catchy Peril est né en fin de compte?
C'était des copains, je les connaissais un petit peu et je connaissais surtout les groupes dans lesquels ils avaient joué et j'appréciais leur qualité musicale. J'ai voulu monter cette équipe avec des gens qui à la fois seraient prêts à faire le truc de manière un peu rock'n'roll, quoi, c'est-à-dire pas attendre, pas avoir des exigences comme si on avait un groupe pour de suite cachetonner et comme si on avait un groupe de reprise ou voilà, mais quand même qui étaient prêts à la fois à faire de la route, monter dans un van et à aller jouer dans plein de rades là où on pourrait se faire connaître. Et en même temps, qui avait une certaine rigueur au niveau musical, au niveau qui était capable aussi de proposer et de suivre sur des arrangements qui peuvent être pas forcément toujours trop radés pâquerettes. Enfin, j'avais envie qu'il y ait un vrai échange musical et en même temps d'être avec des gens cool qui sont capables de s'investir dans ce qu'il y a de super chouette et dans les galères aussi.
Donc il y a de l'amical et du professionnel derrière tout ça. Donc je l'ai dit, vous aviez déjà sorti cette EP précédente, Disco Sucks, qui a été reconnue et saluée par la critique, puisqu'il y a FIP, il y a le magazine Rolling Stone et d'autres qui ont salué votre travail. Aujourd'hui, vous revenez avec cet album qui est un mélange de beaucoup de genres, hein, ça, on reste toujours dans la sphère du rock, mais c'est vrai que je l'ai dit, hein, c'est du punk, du post-punk, de la new wave, du psychédélique, un peu disco même. Comment vous faites pour... c'est une volonté pour vous de brouiller ces frontières, de ne pas avoir un genre dans lequel on vous enferme?
Oui, mais oui, bah c'est aussi ce que font les groupes, je pense, qu'on aime probablement le plus. La clavieriste, par exemple, c'est une fan des Residents, de Magma, de rock. Alors moi, je l'ai connu dans le cadre du rock progressif et du rock psyché. Moi, on avait des groupes qui tournaient autour de ça. Il y a des influences multiples aussi, puisque dans le groupe, puisque le batteur est très influencé, on va dire grunge, post-punk, un petit peu rock gothique, on va dire, et aussi shoegaze. Donc c'est encore d'autres influences. Et le bassiste, lui, tire plus vers des influences jazz. Et quand le rock qu'il connaît, on va dire qu'il apprécie le mieux de base, c'était le heavy metal et Motorhead. Donc on part avec un spectre assez large, mais c'est des mélanges qui ont été faits aussi. Quand on regarde les Fat White Family, il y a énormément de références, et eux-mêmes font référence à plein de sortes de pop qui utilisent les synthés dans les années 80, qui étaient très inventives, puisque c'était aussi un moment où le punk avait brisé un certain élitisme qu'il pouvait y avoir dans une forme de rock très technique. Et où en même temps la no wave mélangée avec plein d'autres trucs. Voilà, donc finalement ces frontières, elles étaient déjà brisées. Je pense à l'Espagne avec les mouvements de la Movida, où il y avait des groupes qui pouvaient faire sur le même album des chansons ultra punk et des chansons disco. Ça se faisait déjà dans les années 80, avec Alaska par exemple. Et il y a aussi le dance punk. Quand on dit en général punk et disco, les gens réagissent étrangement, mais en fait ça se fait depuis 79 ou 80, avec les Talking Heads, avec Gang of Four. Gang of Four qui d'ailleurs en fait a été repris, leur tube a été repris par Idols récemment, donc c'est quand même quelque chose qui est encore d'actualité. Donc Idols qui fait partie un petit peu de cette scène à peu près en même temps que les Fat White Family, qui est active depuis quoi, 10 ans, un truc comme ça, une dizaine d'années, qu'on appelle la Crankwave, qui est en fait un retour du post-punk, mais qui s'affranchit un petit peu des carcans, de certains carcans du post-punk tel qu'il a été développé par des groupes, les groupes les plus connus, on va dire, je sais pas, Joy Division, Bauhaus peut-être, les Cure, voilà, et qui explorent. Donc bon, on n'est pas les seuls à le faire, on n'a pas inventé vraiment quoi que ce soit, mais juste on essaye de faire coïncider des choses qui nous animent dans la musique, quoi.
Eh ben écoute Ben, c'est génial parce que j'ai des études à faire après cette réponse, puisqu'il va falloir que je découvre tous les genres dont tu as parlé. Je me rends compte de ma propre ignorance, mais c'est peut-être ça d'interviewer un groupe, c'est de découvrir aussi tout ce qu'on ne sait pas. Est-ce que pour situer bien votre genre, tu serais motivé qu'on écoute un petit morceau de votre nouvel album, donc Catchy?
Oui, bien sûr.
Écoute, j'ai sélectionné pour vous et j'ai pris I Like It Hard parce que ça fait partie des singles de l'album, donc on va se
Absolument.
l'écouter tout de suite.
In my bath, I like it hard.
yes, avec les petites notes de base pour terminer. Écoute, bah, déjà, félicitations pour ce morceau et pour cet album. Je voulais savoir si dans cet album, vous cherchiez à avoir un fil rouge, ou c'était une suite de morceaux ou de titres que vous aviez envie de compiler, ou vous aviez voulu créer quelque chose qui se suit ou qui s'écoute d'un bloc.
Alors, il y a un fil rouge, oui et non, du coup. Il y a un peu les deux, c'est-à-dire que c'est un peu une photographie de là où on en est après ces deux ans de tournée.
Coopération.
De travail, quoi. Et où on en était au niveau du live, parce que le live, c'est quelque chose qu'on a énormément, qu'on investit énormément, qui est extrêmement important pour nous. Donc, de la pochette à la musique, en fait, il y a un truc, une volonté de faire quelque chose de plus brut que le premier EP, qui était quand même beaucoup plus produit. Donc, on a choisi aussi les chansons pour le premier EP, pour qu'il y ait vraiment une cohérence et un fil rouge. Et donc là, en fait, c'est comme si un peu il nous restait les autres, quoi, qu'on avait envie de poser quelque part, et pour pouvoir aussi faire de l'avant, et puis que soit accessible ce qu'on propose vraiment sur scène. Via les supports numériques et physiques. Parce que souvent, ce qu'on nous disait, c'était le concert, je me suis régalé. Alors, surtout les publics assez punk et tout, j'étais vachement accroché par le concert. Par contre, j'ai écouté l'EP et waouh, c'est pop quoi. C'est pas mon truc. Et c'est vrai qu'il y avait un décalage. Donc, le fil rouge, c'est une production moins léchée, quelque chose de plus brut. Et en même temps, le truc, c'est que là, tu viens de passer un petit peu la chanson qui se démarque un peu de ça. Mmh. Parce que même si on n'a finalement pas produit à outrance, c'est-à-dire pas beaucoup fait de pistes par-dessus les pistes qui sont là pour lécher un peu le son et compagnie, pour rendre le truc plus subtil, je sais pas comment dire. ça reste un morceau qui se détache parce que celui-là est vraiment synth-pop. C'est-à-dire, ça tourne autour de ce truc de synthé. Mmh. C'est plus intimiste, c'est un peu la balade de l'album. Voilà.
Ouais. Donc c'est un single qui se démarque quand même du reste de l'album,
du reste,
que j'invite bien sûr les gens à aller écouter, donc c'est catchy. Je l'ai dit, hein, vous avez une esthétique visuelle forte aussi, puisque on peut pas le présenter à la radio, mais cette pochette d'album est magnifique, hein, c'est quelqu'un qui se fait tatouer catchy sur le bras, c'est toi d'ailleurs, puisque moi j'étais en face de toi et je vois ton bras, donc je sais que c'est toi. Comment vous travaillez cette esthétique, puisque je sais que dans le punk ou dans les mouvements rock, même si on laisse l'idée que c'est peu travaillé, en fait c'est vachement travaillé quand même dans l'esthétique d'un groupe comme le vôtre.
Eh ben, on s'est donné un cadre au début, en fait. C'est comme, oui, on s'est donné un cadre avec un peu des mots-clés. Donc, il y avait des trucs empruntés au glam, des trucs empruntés à quelque chose de plus brut, on va dire, garage, punk. Et en mélangeant tout ça, on se fait plaisir avec, comme on ferait un peu un carnaval, quoi. Et donc, c'est... Tous ces artifices, c'est une manière de dire la vérité, mais à travers une interface. Mm-hmm. Hein. Donc après, c'est au fil du temps où on continue à écouter de la musique, à chercher des nouveaux groupes, tout ça, à tourner, à avoir des expériences ensemble, que les idées sont venues de plus en plus collectivement d'ailleurs, parce qu'au début, moi, je leur ai proposé le cadre avec le set que j'avais composé en fait, hein, et même en grande partie arrangé. Petit à petit, ça a beaucoup évolué, ça. Et en fait, on est allé vers le maquillage et le maquillage fluo, ça pourrait être cool parce que quand on disparaîtrait sur scène, il nous resterait ce truc fluo, que des marques qui bougent. Alors oui, bah ça me plaît pas, nanana. Donc on a évolué comme ça, et en fait. Là, on a essayé, même sur la pochette, de mettre un petit peu certains éléments comme ça qui sont en adéquation avec ce qu'on fait scéniquement. Quoi.
Et tu as sacrifié, parce que c'est toi qui as donné ton bras pour la cause et pour cet album, du coup.
Ouais. Ben oui, en fait, le tatouage, du coup, ça fait partie des... Il y a une anecdote marrante, parce qu'on s'était fait tatouer sur scène, à la maison hantée, dans le dos. Okay. Pendant qu'on jouait, la clavieriste et moi. Et c'était un truc qui nous a... Qu'on a adoré, quoi. On a adoré parce que pour nous, ce groupe et ce qu'on y vit, eh ben, c'est extrêmement important dans nos vies. On en fait un... On essaye d'en partager le plus possible avec le public. de manière le plus authentique et sincère qu'on puisse. Et marquer notre corps à ce moment précis, c'était comme un rituel et qu'on partageait avec les autres. Donc on est revenu sur ce motif du tatouage.
Ah ouais, génial.
Voilà, d'ancrer dans le corps, d'ancrer dans la peau, et quelque chose d'épidermique et voilà, qui peut faire lien aussi avec la recherche d'intensité lorsqu'on compose, quoi. On va chercher quand même une forme d'intensité émotionnelle, donc qui va être dans un registre plus ou dans un autre en fonction de la chanson, mais c'est vrai que ça fait partie un peu des fils rouges, tout comme l'exubérance des... L'exubérance et le côté séducteur des outfits et des postures et tout qu'on emprunte sur scène, comme une forme de danse aussi, hein, bah, ça peut rejoindre aussi musicalement le côté un peu pop, mm-hmm. qu'on veut un minimum accrocheur, quoi, dans notre musique.
Et alors, dans votre musique, tu viens de l'expliquer, hein, vous cherchez cette intensité et tout ce qui va avec. Et vous cherchez quoi avec cet album? C'est quoi vos ambitions, vos objectifs?
La
vous
merde. On cherche la merde.
Des problèmes.
Eh ben non, on cherche à... Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est quand même... déjà, ce qu'on cherche, c'est que... Alors, plusieurs choses. Comme je disais tout à l'heure, là maintenant, les chansons qui ressemblent à ce qu'on fait vraiment sur scène, avec le côté plus rock'n'roll, plus brut... On les a quelque part, on les a en streaming, on peut dire, voilà, vous pouvez écouter ça. Ça, déjà, on peut le partager. Ça, c'est un truc qui est fait. Ce qu'on veut aussi, c'est montrer que on peut durer encore. Donc, ce qu'on veut aussi, c'est en faire un autre après. Et 2026, on aimerait bien un petit peu poser des jalons pour être aussi bien capable de gérer des belles salles, des grosses salles, que gérer des clubs et des bars-concerts comme on a pu en faire beaucoup, et juste en fait passer un cap nécessaire dans l'industrie musicale pour remplir un minimum le frigo avec et arrêter de s'emmerder avec des... Je suis très content du taf que je fais à côté. Non plus s'emmerder, j'ai pas craché dans la soupe. Pour le coup, j'ai de la chance, mais on aimerait bien s'y investir à 100%, et donc le but, c'est après de, je sais pas, peut-être de faire une intermittence avec
et de vivre complètement du groupe,
voilà, d'en vivre, quoi, hein. Sans être sans planer sur la comète, sans gagner des milliers des cents, mais juste en vivre.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Justement, je voulais savoir, par rapport à, pour un groupe marseillais, donc qui commence à Marseille, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de facilité pour un groupe qui commencerait à Paris ou un groupe qui, comme vous, qui commence dans le sud, chez nous, sous notre soleil?
Non, je pense pas que ce soit plus facile à Paris.
Oh, ok, ça, non, c'est bien, c'est exactement la réponse que je voulais.
Mais... Voilà, ouais. Je connais mal. Moi, j'y ai pas vécu à Paris avec l'ambition de faire un groupe et compagnie. On a des collègues là-bas qui ma foi se débrouillent, mais alors voilà, je veux pas parler de choses que je connais pas, mais il me semble quand même qu'il y a un petit peu moins de solidarité entre à l'intérieur du tissu culturel underground à Paris. C'est quand même, ça me semble plus grand, mais aussi un peu plus impersonnel, je sais pas comment dire, c'est-à-dire voilà. Là, aujourd'hui, on voit bien que la sale gueule, en ce moment, a des soucis. Il faut qu'ils fassent des énormes travaux pour mettre aux normes le lieu. C'est un lieu vraiment génial qui permet à des orgas de faire passer des groupes depuis déjà des années et des années. C'est un lieu, vraiment un lieu hyper vivant pour la culture, les cultures punk, alternatives, underground. Et en fait, on voit bien qu'il y a énormément de concerts de soutien qui ont popé partout, qui ont popé même dans des lieux où on se dirait pas forcément que c'est ultra punk et schlag ou anarchiste comme ça pourrait sauter aux yeux quand on rentre dans le hall rouge et noir de la sale gueule, quoi. Et pourtant, en fait, il y a quand même une myriade de concerts de soutien, d'événements de soutien, de... Donc voilà, c'est comme dans l'amitié, hein, c'est au moment où il y a un déménagement qu'on voit si c'est des vrais amis ou pas, hein, c'est pas pour aller boire un coup. Donc il me semble que cette solidarité n'est pas que feinte et n'est pas que un argument business, quoi.
Je
même si c'est pas rose, hein. C'est pas rose non plus, puisque plus on est en concurrence aussi, c'est une réalité aussi, mais ceci dit, n'empêche qu'il fait bon vivre, quoi.
Non, mais je rejoins complètement, je pense, dans tous les domaines artistiques de Marseille, puisque j'ai la chance de voir beaucoup de monde du monde de la culture à Marseille passer ici dans les studios, et c'est vrai qu'effectivement, à Marseille, il y a une vraie solidarité dans tous les domaines. Bien sûr, c'est pas les bisounours, mais effectivement, il y a quelque chose qui fait qu'à Marseille, les gens se soutiennent peut-être plus que dans d'autres villes, en tout cas. Mmh. Ben, on va se laisser sur une dernière question, mais imaginons, rêvons, là, il n'y a pas de limite, où c'est qu'ils sont Katy Perry, là, dans 10 ans? Zéro limite.
Moi, là, au printemps, si on n'est pas en tournée à faire vraiment des belles, belles salles, alors, ouais, si on n'est pas en tournée à faire des belles, belles salles, on serait en résidence dans un joli lieu équipé pour composer plein de chansons à la campagne. Mmh. Moi, je vois bien ça. Ou alors en voyage ensemble dans d'autres pays. Et au-delà des belles salles, c'est surtout aussi voir du pays, quoi. Voir d'autres pays d'Europe, du monde, partir sur d'autres continents. Voilà, moi, je rêve un peu de ça. Mmh. Et de temps en temps, après, se foutre ensemble dans un endroit et faire des nouvelles chansons. Et un bel endroit où on entend les oiseaux le matin. Ouais, j'imagine bien ça, où il y a des rivières, où la mer. Enfin voilà quoi. J'ai oublié de parler de quelque chose que je veux bien évoquer, puisque je parlais de la Sale Gueule, qui auront un stand justement, on les soutiendra, ils auront un stand à notre release party le 13 mai.
Voilà, bah on y arrive, bien sûr, sur la promo, donc le 13 mai pour vous retrouver en concert.
Voilà, le 13 mai, ce sera notre release party, et donc c'est un événement assez important pour nous, d'autant qu'on va faire cette release party au Dodu. Du coup, qui est une salle qui est en face de la Friche Belle de Mai. La salle générale s'appelle Les Vieux Métaux. Quand c'est des orgas plus techno, c'est Unité 22. Et là, c'est une orga donc très rock'n'roll. Il y aura Sovox, La Flemme et nous en groupe. Et il y aura Bonigi qui passera des sons. Donc, pour ceux et celles qui connaissent, voilà, la DJ punk de Marseille, qui est aussi dans Cagnard, qu'on salue. Et ça sera au Dodu. En face de la Friche Belle de Mai, ça commence à 20h30. 13 mai, c'est un mercredi, mais c'est la veille de l'Ascension. Donc venez nombreux et nombreuses pour soutenir finalement la scène locale et pour voir un petit peu ce que ça donne, quoi.
Ouais, oui, ben donc le Dodu le 13 mai, et on peut vous retrouver, j'imagine, sur les réseaux aussi, sur les plateformes d'écoute.
Oui.
Katy Perril,
on est pas mal présent sur Instagram. Mm-hmm. Et puis, un petit peu Facebook aussi, mais surtout Instagram. Ouais, et pour le streaming, c'est à peu près sur toutes les plateformes.
Alors, en tapant Katy Perril, donc Katchy, et voilà. Plus loin Perril, Perril avec un I, donc Peril. Oui. Bah, écoute Ben, c'était un plaisir de te recevoir, c'était un plaisir de parler de ce nouvel album. J'espère vous revoir dans 2 ans pour le prochain et que vous fassiez de la route entre deux et que vous découvriez du pays. On va se laisser avec un petit morceau de votre album pour terminer en beauté. Et je te propose qu'on écoute, parce que c'est moi qui choisis maintenant les morceaux, Astro Orbita.
Allez, c'est parti.
Je l'ai bien prononcé ou c'était n'importe quoi?
On peut dire Orbiter, mais...
Écoute, j'ai dit n'importe quoi, c'est parfait. Allez, merci Ben, bonne journée
à toi. Merci à toi, bonne journée.